Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Grand Bien Vous Fasse. Grand Bien Vous Fasse, c'est la vie quotidienne, mode d'emploi, santé, psychologie, rituel de société, consommation, éducation, famille, amour, sexualité, philosophie appliquée au quotidien, mais aussi culture quand elle nous permet de mieux comprendre et de donner du sens à nos existences. Le modeste programme de Grand Bien Vous Fasse, cette saison, c'est comment vivre une vie bonne. Et une vie bonne, eh bien ça commence par un bon sommeil. Béni celui qui inventa le sommeil, écrivait Cervantes. Et quoi de plus délectable que de se lever avec amour dans les bras de Morphée ? Heureux les bienheureux qui s'endorment aussitôt allongés dans leur lit et qui se réveillent frais et dispos, à l'inverse des insomniaques qui passent des nuits blanches à ressasser leur insomnie. Et ce matin, pour bien commencer la rentrée après un été où l'on s'est souvent couché tard et vautré dans de très grasses matinées, comme votre serviteur, nous attendons toutes vos questions sur les insomnies. Quelles sont les principales causes ? Quels sont les liens entre le stress, l'anxiété et l'impossibilité de s'endormir? Existe-t-il des prédispositions génétiques aux insomnies? Est-il possible d'éviter les somnifères? Et puis surtout, comment bien préparer sa nuit? Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 01 45 24 7000, poser vos questions et témoigner par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Tous les lundis, on retrouve votre petite philo de la vie quotidienne. Vous avez passé de bonnes vacances à méditer sur la brièveté de la vie?
Oui, ou sur la douceur des vacances.
Alors tout à l'heure dans votre petite philo, vous évoquerez les insomniaques et le sens qu'ils peuvent donner à leur insomnie.
Oui, on va se demander tout simplement si l'insomnie peut avoir un sens et si c'est une manière de la rendre plus supportable que d'essayer de la penser.
A tout à l'heure et on attend vos témoignages et vos questions. 01 45 24 7000.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Je suis désolée, messieurs, mais il va falloir que vous couchiez dans le même lit.
C'est pas possible.
Si.
Dans le même lit?
En temps de guerre, vous savez...
Non, fichez-moi la peine.
Bonsoir. Prenez des forces. Vous dormirez bien, je suis très à cheval sur la literie.
Bon, allez, bonne nuit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je ronfle. Mais c'est rien, vous n'aurez qu'à siffler, je m'arrêterai. Hein.
Mais je vais pas siffler toute la nuit, non?
Un extrait de La Grande Vadrouille de Gérard Houry. Et on verra tout à l'heure que dans un lit, l'enfer, c'est parfois le conjoint qui bouge trop ou qui ronfle à plus de 80 décibels. Avec nous ce matin pour répondre à toutes vos questions sur l'insomnie, deux invités. Bonjour docteur Patrick Lemoine.
Oui, bonjour Ali.
Médecin psychiatre, vous avez publié Les Troubles du Sommeil chez InPress. Bonjour docteur Marc Ray.
Bonjour Ali.
Vous êtes neurologue, responsable du Centre du Sommeil de l'hôpital Latimone à Marseille. Et vous êtes l'auteur chez Solar de Quand le Sommeil nous éveille, dormir pour construire son cerveau. Alors mon vieux pote le Robert me souffle à l'oreille que le sommeil, c'est l'état d'une personne qui dort, caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. Et dans une définition littéraire, on parle de sommeil éternel, de grand sommeil comme métaphore de la mort. Patrick Lemoine, Marc Ray, est-ce que certains de vos patients insomniaques ont parfois l'impression de se glisser dans un cercueil quand ils se mettent au lit? Rappelons que le dieu grec du sommeil, Hypnos, était le frère jumeau du dieu de la mort, Thanatos, tous deux fils de Nyx, la déesse de la nuit. Et puis les statistiques indiquent que c'est entre 3h et 5h du matin que l'on meurt le plus. De quoi rassurer les insomniaques qui nous écoutent, hein, Marc Ray?
Tout à fait, oui. Non, c'est une aventure, le sommeil, et qui est une aventure qui peut être très désagréable pour l'insomniaque, beaucoup plus agréable pour la plupart des gens qui dorment bien. Et la nécessité de connaître le sommeil, justement, et de connaître sa mythologie, est quelque chose d'important pour pouvoir l'appréhender correctement.
Docteur Patrick Lemoine, certains de vos patients évoquent cette peur de se glisser dans le lit.
Ah mais ce qui est extraordinaire quand on fait ce métier, c'est que parfois des patients viennent en disant « Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi à ne pas dormir ». Ah bon, pourquoi? Parce que chaque fois que je dors, j'ai des cauchemars de mort épouvantables, ou alors j'ai l'impression de mourir et je me réveille avec le cœur qui tape. Je leur dis c'est bon signe, s'il tape, tant qu'il tape, c'est bon. Mais cette peur de mourir, synonyme pour eux de peur de s'endormir, est fréquente, et on est obligé justement de travailler cette insomnie à partir de la mort.
Docteur Marc Ray, sur cette peur de ceux qui redoutent le lâcher prise et ceux qui ont peur de s'abandonner au sommeil?
Il n'y a pas seulement la peur de la mort, il y a aussi le fait de s'abandonner et donc d'être dans une position de faiblesse. Et certains sujets redoutent cette position de faiblesse, en particulier pas pour la nuit, mais pour la sieste. Vous avez des gens qui sont très gênés s'ils se mettent à faire la sieste, contrairement aux Japonais, pour lesquels c'est quelque chose de beaucoup plus habituel.
Patrick Lemoine.
Oui, je pense en effet que pour dormir, il faut se sentir en complète sécurité. Petit exemple, une jeune femme qui ne pouvait pas dormir si son mari n'était pas à droite et pas à gauche. Explication, eh bien, la porte était à droite du lit et dans sa culture, l'homme était le bouclier qui permettait de la sauver en cas d'intrusion. Parfois, c'est le contraire. Certaines ne veulent pas d'obstacle entre elle et la porte. C'est une autre histoire.
Alors, ceux qui n'arrivent pas à s'endormir et ceux qui se lèvent la nuit, au cœur de la nuit, ce sont les mêmes. C'est le même type d'insomnie. Est-ce qu'on peut parler d'insomnie chez ceux qui se lèvent à 3 ou 4 heures du matin, Marc Ray ?
Oui, donc on parle d'insomnie dans les deux cas, mais c'est vrai que très souvent, il y a une connotation anxieuse chez les gens qui ne parviennent pas à s'endormir, c'est-à-dire qu'ils refont la journée et puis ils font des plannings sur le lendemain, ce qui est une perte de temps considérable. Il vaut mieux le faire avant d'aller se coucher.
Thibaut de Saint-Maurice, vous pouvez témoigner en attendant les auditeurs. Vous êtes un insomniaque ou un petit dormeur ?
Non, plutôt un petit dormeur parce que j'ai aucune difficulté à m'endormir. En revanche, c'est vrai que je me lève tôt et j'ai un grand plaisir à me lever tôt et j'ai la chance de me lever tôt sans être fatigué, c'est-à-dire se lever un peu avant 5 heures, entre 4h30 et 5 heures, et pourtant avoir l'impression d'avoir bien dormi alors que j'ai dormi peut-être 5 heures ou 5h30. Quoi.
Bonjour Valérie.
Bonjour.
Première auditrice de la saison, de la nouvelle saison de Grand Bien Vous Fasse. Vous habitez à Versailles. Alors vous, vous êtes insomniaque.
Oui, je me réveille au milieu de la nuit, genre 4 heures en général. C'est vraiment pile poil cette heure-là. Et je sais que je ne vais pas m'endormir. Donc soit je ne veux pas réveiller mon mari, donc je ne lis pas, je rumine. Et c'est 3 heures les plus longues de ma vie. Soit je me dis tant pis et j'avale un anxiolytique. Et là, ça me détend et je ronfle. Et là, c'est mon mari qui dort plus. Et on se mord la queue.
Patrick Lemoine.
Voilà.
Oui, si j'étais un médecin chinois, je vous dirais 4 heures du matin, c'est l'heure du côlon. Et donc, pensez à votre côlon. Mais comme je suis un médecin français, occidental, je vous dirais qu'il faudrait réfléchir, comme notre philosophe, sur le fait que vous êtes peut-être tout à fait du matin et que ça ne vous plaît pas vraiment, mais que malheureusement, c'est déterminé génétiquement qu'on n'y peut pas grand-chose. Cependant, on peut quand même retarder un peu les horaires de sommeil en utilisant deux outils magiques que sont la lumière et la mélatonine.
C'est quoi la mélatonine ?
Et surtout pas les tranquillisants ou les somnifères, je vous en prie. Déjà pour votre mari, avec lequel je compatis. Alors la mélatonine, c'est une hormone que notre cerveau sécrète toutes les nuits lorsque l'obscurité arrive, lorsqu'on est dans la pénombre. C'est pas une hormone de sommeil, c'est une hormone qui annonce le sommeil. Et on peut un peu comme ça agir sur les rythmes, par exemple, je ne vais pas vous faire de consultation parce que je ne vous ai pas examiné, je ne vais pas faire non plus de prescription, mais dans certains cas, de personnes qui se réveillent trop tôt, je peux prescrire de la mélatonine à 4 heures du matin pour juste allonger un peu le temps de sommeil avec un peu de lumière le soir.
Valérie, à quelle heure vous vous couchez ? Si ce n'est pas indiscret.
11h.
Mais pourquoi est-ce que vous voulez pas, vous vous levez pas tout simplement à 4 heures du matin et puis je sais pas.
Mais parce que c'est le milieu de la nuit, que je vais pas faire du rafut dans la maison et que je suis crevée. C'est drôle, hein.
Marc Ré.
Oui, mais si vous voulez vous rendormir, il faut en effet vous lever à 4 heures du matin parce que vous êtes complètement réveillé à ce moment-là et donc vous n'allez pas pouvoir vous rendormir et c'est exactement ce que vous avez dit. Vous allez vous mettre à ruminer en disant je n'arrive pas à dormir. Donc levez-vous au moins un quart d'heure, 20 minutes pour ressentir la fatigue et le besoin d'être à nouveau allongé et donc le lit redeviendra agréable à ce moment-là plutôt que d'être un lieu de souffrance dans lequel vous attendez un sommeil qui ne viendra pas.
Merci Valérie. Bonne journée à vous.
Je sais pas, ça va marcher, hein, parce que c'est vraiment horrible.
Merci beaucoup Valérie.
Au revoir.
Allez, il est temps de retrouver La Petite Philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice.
La Petite Philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire ?
Oui.
Depuis 6 mois, je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Avec l'insomnie, plus rien n'est réel. Tout devient lointain. Tout est une copie. D'une copie, d'une copie. Quand on souffre d'insomnie, on n'est jamais vraiment endormi et on n'est jamais vraiment réveillé.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, pour la reprise de votre petite philo, vous vous demandez si l'on peut trouver un sens à l'insomnie.
Et oui, Ali, comme on vient de l'entendre dans cet extrait de Fight Club du film de David Fincher, hein, dans lequel donc le narrateur nous raconte une de ses insomnies, et c'est une insomnie qui est plutôt un des symptômes aussi de la crise qu'il traverse. Et bien comme on vient de l'entendre et comme on l'a déjà dit, hein, L'insomnie, c'est rarement une expérience agréable et c'est même une double peine parce qu'il y a non seulement la privation de sommeil et puis ensuite il y a une anxiété que cette insomnie provoque et qui renforce la difficulté que l'on a ensuite encore à trouver le sommeil. Pourquoi ne parvenons-nous pas à dormir? Pourquoi le sommeil ne vient-il pas alors que nous nous sentons fatigués? L'insomnie délivre brutalement sa première vérité, celle de notre finitude, hein, qui prend là le visage de notre impuissance face au sommeil. Parce que nous ne décidons pas de nous endormir, comme nous ne décidons pas non plus de nous réveiller. Le sommeil est une nécessité naturelle dont dépend notre survie, mais sur laquelle, eh bien, nous n'avons aucun pouvoir. La souffrance de l'insomniaque est aussi une souffrance existentielle.
Mais Thibault, l'insomnie n'est-elle pas également l'occasion d'un apprentissage ?
Alors oui, sans doute, mais à condition de commencer à apprendre par accepter l'insomnie pour ce qu'elle est. L'insomnie révèle, d'une certaine manière, notre humanité. L'homme est un animal insomniaque qui fait l'épreuve à travers son insomnie de sa résistance au sommeil des bêtes. Le sommeil ne vient pas parce que des pensées tournent en boucle dans notre esprit. Il ne reste alors plus qu'à penser l'insomnie elle-même. Et c'est ce que fait Émile Cioran, philosophe, grand écrivain et grand insomniaque. Ses insomnies lui révèlent la gratuité de la souffrance, une épreuve sans aucune justification. Elles le font ainsi accéder au point culminant de la conscience, ce que Cioran appelle la lucidité. Alors à lire Cioran, l'insomnie rend donc la vie plus profonde que le sommeil espéré, parce qu'elle libère précisément de tout espoir. Elle révèle la difficulté qu'il y a à exister. Celui qui n'a jamais eu d'insomnie ne sait donc jamais vraiment qui il est.
Mais cette leçon lucide de l'insomnie reste assez difficile à accepter.
Oui, c'est vrai, elle se donne toujours sur un fond de fatigue, de souffrance, de mauvaise humeur, de colère. Mais accepter l'insomnie en la pensant permet aussi sans doute de ne plus la subir tout à fait. Et ça permet surtout au matin, en se réveillant quand même, de conserver un peu de son insomnie de la nuit et d'en faire la source d'une vigilance accrue. Parce que si l'insomniaque est celui qui ne dort pas quand tous les autres dorment, cela veut dire que c'est aussi celui qui veille, celui qui continue de rester éveillé, celui qui continue de questionner et de chercher. En nous apprenant la lucidité la nuit, l'insomnie nous invite le jour à étendre cette lucidité. Et c'est aussi ça qu'il faut comprendre quand Nietzsche écrit « Bienheureux les assoupis, ils s'endormiront bientôt ». Voilà, les assoupis, c'est tous ceux qui vivent sans se poser de questions, sans jamais rien remettre en cause dans leur vie ou dans la société. Ceux-là, ils vont vite s'endormir parce qu'au fond, rien ne les empêche jamais de dormir. Il y aurait donc une vertu paradoxale de l'insomnie, celle de nous refuser l'assoupissement dans notre confort, dans nos certitudes, dans nos évidences, celle de nous empêcher de fermer trop vite les yeux sur le monde, sur les autres et sur nos vies. Alors voilà la première petite question poil à gratter de cette nouvelle saison de La Petite Philo. N'est-il pas bon d'être un peu insomniaque ?
Réponse du psychiatre Patrick Lemoine.
Moi je pense, je suis bien d'accord avec ce que vous avez dit à propos justement du sommeil des animaux, c'est que nous sommes la seule espèce à ne plus vivre tout à fait en phase avec le rythme jour-nuit. Parce que tous les animaux, que vous soyez un ornithorynque, que vous soyez un renard ou que vous soyez votre concierge, eh bien depuis que l'homme a inventé le feu, et bien surtout depuis qu'il a inventé l'ampoule électrique et encore plus les écrans, eh bien on n'est plus en phase. Et je pense que finalement l'insomnie c'est la marque de l'humanité.
Le point de vue du neurologue Marc Ray.
Oui, tout à fait. Et il y a justement une richesse de ces périodes d'éveil nocturne qui sont considérées souvent par l'insomniaque comme inutiles. Et on a vu qu'un certain nombre de philosophes vont rappeler l'utilité de ces périodes d'éveil nocturne et éventuellement qui peuvent être riches de réflexions sur la vie diurne.
La petite philosophie de la vie quotidienne, c'est tous les lundis avec Thibaut de Saint-Maurice. Grand bien vous fasse est préparé par Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide d'un petit nouveau Antoine Vandeville. Et c'est réalisé cette saison par Eric Lenné, que je suis ravi d'accueillir dans notre équipe. Anouk et Pierre vous attendent au standard 01 45 24 7000.
That you're there with me.
Pretenders, I Go To Sleep, avec une programmation musicale signée Muriel Pérez.
Comment ça va ?
Fatigué, j'ai envie de dormir.
Grand bien vous fasse.
Je crois que ça nous ferait beaucoup, beaucoup de bien.
Sur France Inter.
10h24 et nous attendons toutes vos questions sur les insomnies en compagnie de nos deux invités du jour, les médecins Pierre et Patrick Lemoine et Marc Ré. Et avec nous Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Vous appelez de Martigues.
Oui.
Et vous êtes, voilà, semble-t-il, une insomniaque plutôt heureuse.
Bah, heureuse. pas vraiment quand même, pas à 100%. Non, mais bon, je vis avec mon insomnie. Je dors entre 2 et 4 heures par nuit. Quand je ne dors pas, je lis. Hein. Quand je ne suis pas trop fatiguée, parce que des fois, je suis tellement fatiguée que je ne peux pas lire. Mais bon, je n'ai pas d'idées noires, je ne refais pas une journée. J'ai essayé la mélatonine, j'ai essayé la luminothérapie. Je suis allée au centre du sommeil et donc rien ne fonctionne. Le seul problème dans mon cas, c'est que j'ai pris énormément de poids. Parce que quand on est insomniaque, on a des muscles qui fonctionnent moins bien. Par la suite, c'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà.
Vous êtes insomniaque depuis combien de temps, Dominique ?
Depuis 10 ans. Mais avant, pendant 30 ans, j'ai pris des somnifères. Et j'ai décidé d'arrêter tout du jour au lendemain. Voilà.
Docteur Patrick Lemoine.
Oui, alors il faut comprendre qu'il y a pas mal de variétés différentes d'insomnie, et en particulier, il y a deux grandes insomnies, c'est l'insomnie objective ou subjective. L'insomnie objective, effectivement, je ne dors que 2 à 4 heures par nuit, rien de plus, et dans la journée, je m'endors tous les sans cesse, tellement j'ai une dette de sommeil. Puis l'insomnie subjective, c'est une perte de la capacité à percevoir le sommeil. C'est-à-dire, je dors, mais je ne sais pas que je dors, et du coup, dans la journée, c'est quand même plus facile, parce qu'il n'y a pas la même dette de sommeil. Et souvent, quand on a longtemps pris des hypnotiques, quand on est sous hypnotique, le sommeil s'impose à vous. Il est presque concret, palpable. Et lorsqu'on dort sans hypnotique, eh bien, on ne perçoit plus le sommeil. Donc parfois, c'est la cause de bien des malheurs, cette prise d'hypnotique, parce que ça ne permet plus de percevoir son vrai sommeil naturel.
Docteur Marc Ré, quelles sont les solutions envisageables pour Dominique ?
Ah ben là, c'est assez compliqué. D'abord, c'est une insomnie qui est ancienne, et il y a en effet une composante de non-perception du sommeil. Et donc, d'ailleurs, Dominique s'en est rendu compte, puisqu'elle lit de temps en temps, mais de temps en temps, elle ne fait rien, et pour elle ne dort pas, parce qu'elle continue à penser, mais on continue de penser quand on dort, notre cerveau continue à fonctionner pendant le sommeil, on traite des problèmes d'ailleurs, très souvent le matin au réveil on a éventuellement des solutions, ça prouve que la nuit porte conseil, ça veut dire qu'en fait vous travaillez pendant la nuit, et un des problèmes c'est que très souvent l'insomniaque ne considère pas que cette activité mentale pendant la nuit c'est du sommeil, il considère qu'au contraire c'est de la veille, et donc il va trouver que c'est seulement dans l'inconscience absolue qu'il considère le sommeil. Mais c'est ce que disait Patrick Lemoine, c'est-à-dire que ça, c'est l'effet des somnifères qui vous donne quand même une coloration de vie mentale très pauvre. par rapport à la vie mentale normale du sommeil.
Dominique, avec le temps, est-ce qu'on peut considérer que vous vivez bien votre insomnie ?
Alors, il y a eu une période où je l'ai bien vécu. Là, je recommence à le vivre mal, bon, parce que je suis épuisée. Bon, il y a des choses que je n'arrive plus à faire, bon, comme je faisais. Alors bon, il y a l'âge hein, qui vient aussi. Mais bon, avant, je conduisais facilement. Bon, je faisais 600 ou 700 kilomètres d'une seule traite. Maintenant, je suis plus capable de le faire parce que je suis fatiguée, parce que je m'endors au volant. Bon. Et effectivement, j'ai des petits. Je dis que de temps en temps, je fais des micro-siestes, c'est-à-dire que je me rends compte dans la journée que je m'endors une minute, peut-être moins des fois, mais j'ai vraiment cessé de voir ce qui m'entourait. Je dors vraiment. Des fois, je suis reposée avec une minute de sommeil, comme ça, je suis reposée. Mais bon, c'est pas tout le temps. Hein.
Sur la prise de poids de Dominique, c'est lié à deux hormones, c'est ça, la gréline et la leptine, l'hormone qui régule la satiété et l'hormone qui régule le poids, docteur Marcret.
Oui, la leptine est une hormone qui va être sécrétée par le tissu adipeux, qui nous permet de ne pas avoir faim, ce qui nous permet de supporter 8 ou 9 heures de jeûne pendant qu'on dort. Et au contraire, vous avez la gréline qui va stimuler notre appétit. Et il est évident que quand il y a un trouble du rythme veille-sommeil, la balance leptine-gréline n'est plus la même, et donc on va avoir tendance à manger plus. Et puis, il y a aussi un effet anxiolytique de certaines prises alimentaires, et donc on a une espèce d'effet boule de neige dans cette histoire.
Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir appelé depuis Martigues. Alors, quelle est la définition médicale de l'insomnie chronique et quels sont les critères médicaux, docteur Marcret ?
Alors, ce qu'on appelle l'insomnie chronique, c'est une insomnie qui se répète 3 fois par semaine pendant au moins 3 mois. Puisque tout le monde peut faire une insomnie aiguë sans que ça soit pathologique. Mais la définition de l'insomnie reste quand même éminemment subjective. C'est le sujet qui se plaint.
Quels sont les mécanismes de l'insomnie ? Que se passe-t-il dans le corps, dans le cerveau, quand on n'arrive pas à trouver le sommeil ?
Là, c'est un ensemble de choses qui sont très différentes, puisque vous pouvez avoir un hyper-éveil, donc je suis extrêmement réveillé et donc je ne vais pas dormir. Cet hyper-éveil nous protège dans une situation de danger, donc c'est quelque chose qui est physiologique, parce que si on doit vous agresser pendant la nuit, vous n'allez pas dormir, d'accord ? Et puis au contraire, vous pouvez avoir un déficit de sommeil, et donc c'est les systèmes de sommeil qui ne marchent pas.
Bonjour Cathy. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, vous appelez de Versailles.
Oui.
Alors expliquez-nous votre cas.
Alors moi j'avais un sommeil de bébé, je suis une personne qui a besoin de beaucoup d'heures de sommeil, entre au moins 9 heures pour être en forme et pour travailler correctement le lendemain. Et depuis que la ménopause est arrivée, je suis réveillée la nuit et c'est très désagréable, donc je peux rester éveillée pendant plus d'une heure, une heure et demie, 2 heures. J'arrive pas à retrouver le sommeil rapidement et ça fait que le matin je suis décalée et que j'ai un mal fou après à me lever, à être en forme pour le reste de la journée.
Et Cathy, est-ce que la peur de ne pas dormir, ça accentue votre insomnie ?
Alors moi je fais partie des gens qui adorent se mettre au lit le soir avec un livre, avec grand plaisir. Mais effectivement, moi, c'est la peur de me lever tôt. Quand je dois me lever très tôt, c'est quelque chose qui m'angoisse parce que je sais que j'ai besoin de sommeil. Alors, c'est pas lié à mes insomnies, mais comme vous me posez la question, je sais que si j'ai quelque chose à faire, un avion ou un train à prendre très très tôt, ça m'empêche de dormir. Mais là, c'est différent. Actuellement, je m'endors très très bien, mais je suis réveillée à peu près toutes les nuits. Voilà.
Docteur Patrick Lemoine.
Oui, alors faut bien comprendre qu'on n'est pas tous construits pareil et qu'il y a ce qu'on appelle des typologies qui sont assez fortement génétiquement programmées, à savoir qu'on peut être long, moyen, court dormeur. On dort en moyenne 7h30, c'est pas le sommeil normal, mais c'est la moyenne, mais on peut se porter bien avec 10 heures et se porter bien avec 5 heures. Et puis par ailleurs, on peut être du matin, les gens vraiment du matin, comme Thibaut de Saint-Maurice et moi-même, ils sont chronorigides, faut qu'ils se lèvent toujours, tous les jours à la même heure. Je sais que si je fais une grasse matinée et que je me lève à 6 heures du matin, je suis dans le coltard toute la journée. Donc chronorigide. Et puis, j'aime pas le décalage horaire. Et puis, il y a des gens du soir qui ont beaucoup de mal à être ponctuels et qui sont au contraire très chronoflexibles. Et ce qu'on observe, c'est que l'insomnie exagère cette typologie. C'est-à-dire que les gens du soir, ils n'arrivent pas à s'endormir, et les gens du matin, quand ils sont un peu up, ils ont tendance à se réveiller trop tôt. notre auditrice, c'est clair qu'elle est du soir, qu'elle aime pas se lever le matin, elle est pas comme nous deux avec le bonheur des levers de soleil, elle préfère probablement les couchers de soleil. Donc elle a intérêt quand même à être un petit peu plus à cheval sur ses horaires.
Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller, Marc Ray ?
Ah ben là, il y a aussi un problème hormonal puisque c'est en cours de ménopause et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes avec les interdictions des traitements hormonaux substitutifs qui sont tombés un peu comme un coup près, avec un grand nombre de femmes qui étaient assez bien équilibrées sur le plan du sommeil avec les traitements hormonaux substitutifs et qui ont été brutalement déséquilibrées le fait de les avoir arrêtés avec des bouffées de chaleur nocturnes et avec une incapacité de se rendormir la nuit. Et donc c'est sûr que là il y a quand même un rythme hormonal qui est brutalement perturbé et c'est une époque de la vie qui est toujours un peu plus difficile à gérer.
Oui, d'ailleurs, à cet égard, et Marc a vraiment raison d'en parler, très souvent, moi je conseille la phytothérapie qui permet d'avoir une approche hormonothérapique très facile pendant de nombreuses années, et le nombre de femmes en cours de ménopause qui redorment grâce à ces plantes. Et puis dans un deuxième temps, effectivement, s'il n'y a pas de contre-indication, le traitement hormonal substitutif, c'est vraiment la solution.
Et en phytothérapie, on peut peut-être conseiller la valériane, l'aubépine?
Alors pas en matière de ménopause, parce que non, là c'est vraiment des plantes hormonales.
D'accord. Hein,
qui apportent des estrogènes, qui apportent de la progestérone, qui sont très spécifiques. Là, il faut voir vraiment un phytothérapeute. En revanche, en matière de plantes qui font dormir de manière, si j'ose dire, scientifique, pour lesquelles il y a des démonstrations évidentes.
Je parlais de ça, justement.
Les deux grandes plantes, les deux stars du sommeil, c'est Valériane et Scoltzia. Et puis autrement, la passiflore, qui est également anxiolytique, a également démontré dans des études versus tranquillisant, versus placebo, et a une AMM européenne, une autorisation de mise sur le marché européenne.
Merci beaucoup, Cathy, de nous avoir appelé de Versailles.
Tiens, vous signalez qu'il est 3h du matin et que je me lève à 5h pour aller au hall. Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics.
Toi, tu vas taire ta gueule et écouter Mozart avec nous. Concerto pour clarinette.
Oui, mais moi j'en ai rien à branler de la musique. Moi ce que j'aime, c'est le silence.
Gerbard de Brunner, meilleur clarinettiste du monde. Alors assieds-toi, ferme ta gueule et ouvre tes oreilles.
Mais enfin, puisque je vous dis que ce que je veux, moi, c'est dormir, c'est tout simplement dormir. Je suis fatigué. Je suis un petit commerçant fatigué. Bouffé par les grandes surfaces, pourchassé par les huissiers. J'ai le fisc au cul, j'ai l'URSSAF au cul. Je peux même pas dormir à cause de votre musique. Alors moi, j'en ai rien à foutre de votre Mozart. Je le connais pas, ce mec-là. Je l'emmerde.
Un extrait de Préparer vos mouchoirs de Bertrand Blier en 1978 avec évidemment les voix de Gérard Depardieu et de Michel Serrault. Docteur Marc Ray, pourquoi le stress empêche-t-il de s'endormir? L'insomniaque est envahi par tout un tas de cognitions, de pensées intrusives qui sont des ennemis du sommeil.
Non, biologiquement, le stress est prévu pour nous maintenir éveillés, puisqu'il y a quand même une histoire qui est la vie qui est en jeu dans cette histoire. Et si vous êtes trop stressé, vous n'allez pas pouvoir dormir. Un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de stress psychologique que de stress physiologique. Quand vous étiez mineur de fond, c'était très stressant sur le plan physiologique, c'est-à-dire que c'était un travail ardu, et donc le soir, ben, vous pouviez lâcher prise. Et quand par contre vous avez du stress psychologique, ça va être plus difficile de lâcher prise, mais nos systèmes sont prévus pour nous maintenir éveillés.
Docteur Patrick Lemoine, sur toutes ces cognitions, ces pensées intrusives qui nous empêchent de dormir?
Oui, et du coup, il est très important d'apprendre justement ce fameux lâcher prise. Alors autrefois, l'Église proposait l'examen de conscience et on se recommandait à l'ange gardien, c'était nickel d'un point de vue cognitif et comportemental. Maintenant, non, il y a des techniques un peu différentes entre la méditation, la mindfulness, la relaxation, le bouddhisme zen. Pas défendu de prier non plus, mais il y a beaucoup de techniques où on doit se distraire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que très souvent, l'insomnie est créée par l'envie de dormir. Et que ceux qui dorment bien, c'est des gens qui n'ont pas envie de dormir. Une étude, moi, que j'adore citer très rapidement, vous prenez des gens très bons dormeurs, vous les recrutez, vous les mettez dans un labo de sommeil avec des électrodes, et au moment d'éteindre la lumière, vous leur dites 50 000 euros au premier qui s'endort. Il n'y en a pas un qui va fermer l'œil, parce que l'envie de dormir est tellement forte que ça vous maintient en éveil.
Alors, il y a des événements de vie hein, qui sont des facteurs déclencheurs d'insomnie. Je pense évidemment au deuil, au divorce, ou bien quand on devient parent, tout simplement.
Patrick Lemoine,
il y a une auditrice, Violette, qui nous parle de l'insomnie des mères.
Alors, il y a plusieurs
et
choses.
Des pères aussi.
Tout à l'heure, vous parliez de dormir comme un bébé. Je sais pas si vous avez un petit bébé, mais il y a un qui dort plus mal qu'un bébé. Ça vous réveille toutes les heures, puis ça fait des bruits en dormant. Donc, on oublie le sommeil de bébé. Mais souvent, l'insomnie, c'est l'attente d'un événement heureux. Je vais dormir mal la veille de mon mariage, la veille de ma Légion d'honneur. Ou malheureux, je connais quelques hommes politiques en ce moment qui sont dans l'attente d'une mise en examen, qui à mon avis dorment pas très bien. Donc cette attente stimule les centres de l'éveil et effectivement empêche de s'abandonner au sommeil.
Quelles sont les causes médicales de l'insomnie? Je pense à la fièvre, au syndrome prémenstruel, aux causes urologiques aussi, quand on se lève 3 ou 4 ou 10 fois dans la nuit pour aller uriner.
La douleur.
Pardon?
La douleur. Toutes les douleurs.
Oui, toutes les douleurs. La douleur va être quelque chose de très important pour ne pas dormir, puisque ça va vous empêcher de dormir. Et en plus, il y a une espèce de cercle vicieux, parce que le fait de s'empêcher, enfin, de ne pas dormir, va exacerber la sensation douloureuse. Donc ça, c'est un problème. Mais il y a plein, en effet, de causes médicales qui font que on va mal dormir. Alors la fièvre, c'est un peu ambigu, parce que si vous avez un gros syndrome fébrile, vous allez plutôt être hypersomniaque du fait des produits qui sont sécrétés, des substances inflammatoire, parce que vous avez une inflammation qui vous provoque de la fièvre, et à ce moment-là, on va avoir tendance plutôt à plus dormir. Mais il y a d'autres situations ou d'autres maladies, comme le syndrome des jambes sans repos, c'est-à-dire le fait d'avoir des espèces de douleurs dans les jambes, d'impatience dans les jambes, ça va vous empêcher de dormir. Donc là, c'est une insomnie qui est liée directement à ce problème. Et elle peut être améliorée en traitant le problème du syndrome des jambes sans repos.
Oui, d'ailleurs, ce qui est amusant de voir, d'après les épidémiologistes mondiaux, l'hypnotique le plus consommé au monde, c'est l'aspirine. Tout simplement parce que, en réalité, ça supprime les douleurs qui empêchent de dormir et que, par ailleurs, ça abaisse la température du corps, ce qui facilite l'endormissement.
Quels sont les grands perturbateurs du cycle veille-sommeil? Je pense évidemment au bruit ou aux lumières extérieures au moment de l'endormissement. C'est la faute à Thomas Edison qui a industrialisé l'ampoule électrique, Patrick Lemoine?
Oui et non. D'après les historiens, il n'y a pas eu de variation de sommeil depuis l'invention de la lumière électrique. Donc je pense que c'est quand même surtout la faute de celui qui a inventé le feu dans le foyer. Parce que ça nous a fait divorcer des rythmes normaux. Simplement, je pense que on est des êtres humains, c'est-à-dire fabriqués pour être dans des petites bandes d'une trentaine d'individus dans la savane, et qu'en fait, maintenant, tous les jours, on croise des milliers de personnes dans le métro, et chaque croisement, c'est un stress. Et donc, on accumule une quantité de stress, surtout si on est en ville. Il y a plus d'insomnie en ville qu'à la campagne. Mais donc, toutes ces perturbations au niveau des rythmes veille-sommeil, par rapport au rythme nuit-obscurité, ainsi que tous les rythmes liés au travail, au décalage et à tous ces contacts, ça aide pas.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, juste me demander, en vous écoutant, est-ce que du coup il y a une corrélation entre l'activité physique et le sommeil? C'est-à-dire, une intuition serait de dire que si on se fatigue plus par une activité physique, est-ce qu'on s'endort mieux?
Non. L'activité physique va vous permettre d'avoir une meilleure chute de température le soir, donc va un peu favoriser l'endormissement, mais c'est surtout l'activité intellectuelle qui va vous donner sommeil. Si vous avez un gros travail intellectuel que vous faites pendant la journée, vous allez devoir dormir la nuit, parce que vous êtes épuisé sur le plan de votre fonctionnement mental. Le sommeil, c'est fait pour le cerveau, d'abord. Et l'activité physique, ça va fatiguer vos muscles, vous aurez besoin de repos, mais pas forcément de sommeil.
Alors, faire ou ne pas faire la sieste quand on est insomniaque, là est la question. Écoutons la célèbre sieste de Salvador Dali, lue par Mathieu Vidard.
Asseyez-vous dans un fauteuil osseux, de préférence de style espagnol, la tête renversée, appuyée sur le cuir tendu du dossier. Vos deux mains doivent pendre en dehors des bras du fauteuil. Dans cette position, vous tiendrez une lourde clé que vous garderez suspendue, serrée délicatement entre les extrémités du pouce et de l'index de votre main gauche. Sous la clé, vous aurez au préalable placé par terre une assiette à l'envers. Ayant terminé ces préparatifs, vous n'aurez qu'à vous laisser envahir progressivement par le sommeil serein de l'après-midi, comme la goutte spirituelle d'anisette de votre âme montant dans le cube de sucre de votre corps. Lorsque la clé tombera de vos doigts, le bruit de sa chute sur l'assiette retournée vous réveillera sûrement. Et vous pouvez être sûr également que ce moment fugitif où vous avez à peine perdu conscience et pendant lequel vous ne pouvez pas être certain d'avoir vraiment dormi est entièrement suffisant vu que vous n'avez pas besoin d'une seconde de plus pour que votre être physique et psychique tout entier soit reposé.
la voix enveloppante de Mathieu Vidard que vous retrouverez tout à l'heure à 14h dans La Tête au Carré. Alors, faut-il faire des siestes quand on est insomniaque? Et c'est quoi la durée idéale d'une sieste? C'est la sieste de Dali, Patrick Lemoine?
Ouais, ce qui est énervant avec les artistes, c'est qu'en quelques minutes, eux qui n'ont même pas fait d'études, disent des choses tellement mieux que nous après nos longues études. Il a complètement raison, Salvador Dali, il a totalement raison. La micro-sieste peut durer 30 secondes. À l'époque où j'avais le temps, que j'écoutais les informations après déjeuner, juste le résumé des informations, 30 secondes, me suffisait largement pour récupérer.
Mais elle est réparatrice,
alors,
cette micro-sieste?
Elle est totalement réparatrice. Napoléon l'avait bien montré aussi sur ses champs de bataille, quand son sommeil était protégé par un mur de tambour. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'en matière d'insomnie, si on fait la sieste, c'est pas plus de 20 minutes. 20 minutes, ça permet de récupérer. Au-delà, ça entame le capital de sommeil de la nuit suivante.
Et vous la préconisez aux insomniaques, la sieste, Marc Ray ?
Tout à fait. Mais cette sieste-là, telle que Dali l'a décrit, ça consiste à mettre au repos ces systèmes d'éveil et non pas de mettre en place ces systèmes de sommeil. La sieste n'est pas faite pour accumuler du sommeil comme vous mettrez de l'essence dans un réservoir. La sieste, c'est fait pour que vos systèmes d'éveil s'arrêtent de fonctionner. Et quand ils se sont arrêtés, ils peuvent redémarrer. Et c'est ce qui se passe avec le bruit de la clé. C'est assez fantastique.
Bonjour Marie-Dominique.
Bonjour.
Bienvenue, vous appelez de Bordeaux.
Oui, tout à fait.
Êtes-vous insomniaque, Marie-Dominique?
Je crains que non. En ce moment, non, je suis petite dormeuse. Petite, très petite, comme d'autres personnes précédemment. Je dors 4 heures par nuit actuellement. Bon, il semble que j'ai pas de soucis dans ma vie. Je suis retraitée, je suis plutôt heureuse. Mais voilà, 4 heures de sommeil, ça sous-entend 20 heures de veille. Et les premières heures du jour, c'est fabuleux. Je fourmille d'idées, je me lève, je suis seule avec un chat dont je ne dérange personne. Voilà, je fais des projets, je respire, je sors éventuellement à la belle saison. Mais ma crainte, c'est de dormir encore moins que ça et après de ne plus dormir du tout. Alors voilà, c'est la question que je voulais poser à vos deux spécialistes.
Docteur Marc Ray.
Alors là,
elle a l'air très heureuse, Marie-Dominique.
Oui, on a affaire à quelqu'un qui est une courte dormeuse, donc qui est tout à fait bien, et avec 4 heures de sommeil, éventuellement avec un sommeil flash à la mi-journée ou un sommeil un peu plus long à la mi-journée. Mais ce qu'il y a de très difficile pour le court dormeur, c'est d'occuper, en effet, ce qu'elle a dit, les 20 heures, si elle ne dort que 4 heures. Et donc, il faut avoir, et elle parle très bien, que le matin, elle fourmille d'idées, etc. Mais c'est vrai qu'après, ça va être quand même compliqué d'arriver à se motiver toute la journée.
Les yeux dans les yeux, Marie-Dominique, est-ce que vous êtes une siesteuse? Est-ce que vous faites la sieste?
Alors voilà, je fais une sieste très régulièrement, entre 13h30 et 15h. Et je voulais dire aussi que justement, je suis épuisée, enfin très fatiguée, vers 18-19h. Là, très fatiguée.
Oui, Marie-Dominique est définitivement du matin. Et effectivement, le matin, on fourmille l'idée. Et puis, à partir de 17-18h, ça décline inéluctablement. Faut assumer, faut faire des choses moins compliquées, plus simples. Vous êtes créative le matin, pas le soir. Bah, c'est comme ça, c'est votre nature.
Merci beaucoup, Marie-Dominique, de nous avoir appelé de Bordeaux. Questions, témoignages. Nous attendons vos questions au 01 45 24 7000 sur notre page Facebook et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. Strength and the length she'll go to win an argument is long enough but not strong enough for me. There's no reason in it is. You know the hurt, the loss, so I gave myself to the sure things, the simple and the bored things in my wasted world. Entertaining mornings when I can't see past the door, when my tie's hung above my trousers, balled up on the floor, and she's rifling through her drawers for a pretty little under thing that'll make me beg for more. You know she's got a busy day, and I really love.
pills to pop, so I really must be going, babe. Fidelities, I edge upon insanity, but it's just beer batter and rhapsody for me. I'll take lacy covered solace in the hope that she might promise all the things that she had mentioned. You can't imagine the potential, so I gave myself to the short thing, the simple and the bored. Things in my wasted wealth on the bored things, those entertaining mornings when I can't see past the door, when my ties hung above my trousers, balled up on the floor, and she's rifling through her drawers for a pretty little under thing that'll make me good for more. You know she's got a busy day and I really love to stay, but I got shows to stop and roles to rock, so I really must be going, babe.
L'excellent Cameron Avery, Wasted on Fidelity.
Je voudrais arriver à dormir.
Et moi donc.
Grand bien vous fasse.
Tu rentres chez toi, tu prends une tisane et au dodo.
Sur France Inter.
Tisane d'aubépine et de valériane, si j'ai bien compris, Patrick Lemoine, hein?
L'aubépine n'a pas eu non. beaucoup d'études, valériane a eu beaucoup d'études, escoltia a eu beaucoup d'études, mélatonine bien sûr a eu beaucoup d'études, c'est-à-dire qu'il y a 1000 moyens, plus la lumière, de dormir, sans parler des moyens psychologiques, psychothérapiques, il y a 1000 moyens de dormir non chimiquement, parce qu'on oublie toujours de dire que quand on dort avec des somnifères, ce qui est une escroquerie intellectuelle, que somnifère qui apporte le sommeil, c'est pas du sommeil, c'est de l'anesthésie.
Non, personne n'est jamais mort d'insomnie.
Et si j'étais atteint de narcolepsie? Je m'endors et parfois je me réveille dans des lieux bizarres sans savoir comment j'y suis arrivé.
Vous devez vous détendre.
Vous pouvez me prescrire un médicament?
Du Tuinal en gélule rouge et bleu? Du Seconal en gélule rouge baiser?
Non. Il vous faut un sommeil naturel et sain. Mâchez des racines de valériane et tâchez de faire un peu plus d'exercice.
Ah oui, je vous en prie, je souffre.
Vous voulez en voir de la souffrance? Faites un petit tour à l'église méthodiste le mardi soir. Vous verrez des gars qui ont un cancer des testicules. Ça, c'est de la souffrance.
Un extrait de Fight Club de David Fincher en 1999. Docteur Marcret, comment agissent les somnifères? Et pourquoi la qualité du sommeil n'est-elle pas au rendez-vous quand on s'appuie sur ces béquilles chimiques?
Alors, les somnifères agissent pour mimer l'action d'une substance qui est sécrétée dans le cerveau, qui s'appelle le GABA, qui est sécrétée par des neurones qui vont bloquer le fonctionnement d'autres neurones. Et donc, on va utiliser des substances qui vont venir se mettre sur ces récepteurs et donc mimer cette action-là. Mais elle est beaucoup plus diffuse, bien entendu, que simplement inhiber les systèmes d'éveil. Donc, c'est pour ça qu'on a des problèmes de mémoire sous somnifères et que les somnifères ne sont absolument pas un traitement de fond de l'insomnie, mais un traitement éventuellement aigu pour passer une ou deux bonnes nuits, mais à long terme, ça ne sert à rien.
Et quels sont justement les effets à long terme de la prise de somnifères, docteur Patrick Lemoine?
Ils sont multiples. Déjà, il y a des études inquiétantes sur 100 000 sujets suivis pendant une dizaine d'années, où on voit quand même que la mortalité est presque multipliée par deux quand on prend plus de 3 mois ces substances. Alors, je suis pas là pour affoler dans les chaumières, les gens sont suivis, mais un petit peu quand même. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des vraies mesures qui soient prises à l'encontre de ces substances. Alors récemment, un somnifère a été classé stupéfiant. Ça montre quand même les difficultés avec ces produits qui peuvent avoir un usage récréatif. Mais on sait que ces produits systématiquement font ronfler. Et si on a quelques apnées, on en a beaucoup. Qui dit apnée dit risque d'Alzheimer. Là aussi, les études sont quand même impressionnantes de démence prise par l'usage prolongé de ces médicaments. Et puis, qui dit apnée risque d'infarctus, d'AVC. Mais j'affolerai quand même pas plus les chaumières.
Alors certains ne peuvent plus se passer de somnifères. On avale depuis 5, 10, 15 ou 20 ans. Comment on fait si on décide de se sevrer, docteur Marcret?
C'est très compliqué parce que on a intégrer un sommeil différent du sommeil naturel que l'on avait avant la prise des somnifères. Et donc, le sujet va essayer de retrouver un sommeil pour lui, mais qui correspond à un sommeil sous somnifère. Et donc, il va falloir qu'il fasse le deuil de ce sommeil sous somnifère pour récupérer le sommeil naturel qu'il avait avant. Et ça, c'est long, et il va falloir qu'il fasse de gros efforts, d'où l'intérêt des thérapies cognitivo-comportementales pour aider les gens dans cette démarche.
Elles agissent de quelle manière, ces thérapies cognitives et comportementales, docteur Lemoine ?
Il y a déjà une question de ce qu'on appelle l'hygiène des rythmes, qui en fait partie, à savoir que quelqu'un qui est insomniaque doit apprendre que finalement l'éveil et le sommeil, c'est pas très compliqué, c'est un problème de thermostat, comme dans vos appartements chez vous, la température doit baisser la nuit et monter le jour. Donc le matin, on se lève toujours rigoureusement à la même heure. C'est dur pour les sujets du soir, mais on se lève plutôt tôt, tous les matins à la même heure, et ensuite on fait tout pour monter la température. Donc on fait un peu de gym dans son lit ou dans sa chambre, on prend une douche bien chaude, bien prolongée, un petit déjeuner costaud, beaucoup de lumière. Dans la journée, pas plus de 20 minutes de sieste. Et le soir, on fait tout pour abaisser la température. On écoute France Inter et on n'écoute pas la télévision, ou plutôt moins. Et surtout, pas d'écran.
Mais si je vous comprends bien, ça se prépare dès le lever, oui. Le sommeil du soir, docteur Marcret.
Ah, la nuit sera d'autant plus agréable que la journée l'a été. C'est la proposition inverse que posent les insomniaques en disant « Le jour où je passerai une bonne nuit, j'aurai une bonne journée. » Et on leur répond que c'est le jour où ils auront une bonne journée qu'ils pourront envisager d'avoir une bonne nuit.
De plus en plus de personnes veillent tard, pianotent sur leurs écrans, regardent très très tard des séries télé, ça s'appelle le binge watching. Bon, ça c'est pas très
bon. C'est une catastrophe. Alors Marc a raison de dire, l'insomnie d'endormissement, ça se traite le matin par un réveil précoce, toujours à la même heure. Mais en effet, après dîner, normalement, pas d'écran. Alors la télévision quand même, à la rigueur, parce que si on est à plus de 3 mètres, il n'y a pas trop de rayonnement bleu, mais tous les autres écrans, tablettes, ordinateurs et autres téléphones sont à bannir.
C'est la lumière bleue de ces écrans
qui bloque cette fameuse mélatonine.
Alors, certains spécialistes recommandent de passer le moins de temps possible au lit quand on est insomniaque, avec l'idée de rétablir dans le cerveau l'association lit-chambre-sommeil. Éviter, par exemple, d'utiliser le lit pour manger, travailler, regarder la télé.
Ah oui, ça c'est en effet dramatique. Il faut se retirer dans sa chambre pour dormir, sinon il faut aller dans une autre pièce pour faire tout un tas d'autres choses. Et il est évident que les stimulations polysensorielles le soir vont être quelque chose qui va rendre beaucoup plus difficile pour s'endormir, parce que vous allez être tellement stimulé qu'il est difficile de s'arrêter. La lecture du soir sur un livre, vous ne stimulez que la vue. Et donc qu'un sens, les autres sens peuvent s'endormir.
Oui, oui, voilà. Pronto, oui.
Bonjour Christine Lapelle-Edouel.
Bonjour Annie.
Vous êtes journaliste responsable des pages livres dans Psychologie Magazine, experte éclairée dans Grand Bien Vous Fasse. On parlait de lecture alors, là à l'instant avec Marc Ray. Est-ce qu'il y a des livres qui provoquent systématiquement une irrémédiable envie de dormir chez vous ? Pour ma part, je le confesse, c'est Ulysse de Joyce. Mais, et vous ?
Ah ouais, alors moi, il y en a un, mais un texte qui m'a toujours plongé dans un état hypnotique, une sorte d'hébétude, et bien c'est La Montagne Magique de Thomas Mann. Alors j'entends d'ici les hurlements.
Ah oui, je les entends déjà.
Comment Thomas Mann, le plus grand écrivain allemand du XXe siècle ? Eh ben oui, c'est lui, c'est comme ça. J'ai essayé 10 fois de le lire jusqu'au bout, mais 10 fois, je suis tombée en catalepsie. Alors l'action, je vous le dis en 2 secondes, si on peut parler d'action, hein, se passe dans les années 1900, dans un sanatorium des Alpes suisses. Hans Castorp, le héros, vient rendre visite à son cousin qui est dans ce fameux sanatorium. Il doit y rester 3 semaines, et bien pas du tout, il s'y englue durant 7 ans, et je peux vous dire que nous aussi, là, on file des pages, c'est le rythme lent des journées, des conversations qui se déroulaient, ça n'en finit pas, c'est lent, c'est rasoir.
Et Christina, je sens qu'on va recevoir un tas de courriels, d'auditeurs et de lecteurs indignés. Alors, à contrario...
C'est la magie de la montagne, c'est ça, hein, c'est son pouvoir soporifique.
Christina, à contrario, très vite, est-ce qu'il y a un ouvrage en ce moment qui vous tient éveillé toute la nuit ?
Ah oui, il y en a un qui est absolument merveilleux, c'est le livre drôle, brillant, formidable du prodige Jonathan Safran Foer, qui s'appelle Me voici, c'est publié à l'Olivier, 750 pages, comme la montagne magique qui en compte 1000, mais je peux vous dire que les 550 pages, pas un bâillement, une rigolade du début à la fin.
Merci beaucoup Christina Pelleduel, on vous retrouve bientôt dans Grand Bien vous fasse. Il y a des livres qui provoquent chez vous
Ouais, l'annuaire des postes par exemple.
Marc Ries, sur les vertus dormitives de la lecture.
Ah, c'est quelque chose en effet qui est assez sympathique de s'endormir sur un livre parce que ça vous permet de continuer la lecture mais sur un mode yeux fermés.
Thibaut de Saint-Maurice.
Moi, je vous conseille quelques pages de la phénoménologie de l'esprit de Hegel.
Ça marche bien aussi.
Ça marche bien aussi.
Un dernier conseil, docteur Ray, docteur Lemoine, pour bien dormir ce soir, hormis bien sûr le fait de se procurer vos livres respectifs, docteur Marc Ray.
Pour bien dormir le soir, il faut avoir fait une journée sympathique dans laquelle on a l'impression d'avoir vraiment passé une bonne journée et on aura envie de dormir.
Patrick Lemoine.
Rien ne sert de dormir, il faut se lever à point.
Eh bien, on finit sur ces belles paroles. Merci, docteur Patrick Lemoine. Docteur, je ne dors pas, le sommeil en 50 questions est publié aux éditions InPress. Marc Ray, quand le sommeil nous éveille, dormir pour construire son cerveau est publié chez Solar. Et je vous propose de revenir très vite dans Grand Bien vous fasse, car nous avons encore des tonnes de questions à vous poser sur le sommeil. Demain, on s'intéresse à la peur de prendre l'avion. Est-ce que vous avez évité ce moyen de transport pendant les vacances? Si vous avez eu la chance de partir, quelles sont les raisons qui vous empêchent de vous envoler sans crainte dans les airs? Nos experts vous délivreront quelques conseils pour surmonter votre phobie de l'avion. Et ce sera demain le retour de notre psychiatre préféré, Christophe André. À la technique ce matin, Stéphane Beaujat et Clément Vuillet.